Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
RFI Soir, Simon Bourtembourg.
Le début des RFI Soir et au programme vos chroniques du samedi, l'actualité des médias, le livre inter de la semaine et un reportage à Dakar dans l'illustre marché où les Sénégalais laissent parler leur passion pour la fripe. Mais avant ça, le journal. Et ces scènes de liesse, place des otages côté israélien et à Khan Younes et Ramallah notamment côté palestinien. Pour cette quatrième vague de libération depuis l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza, 3 otages israéliens ont été échangés contre 183 prisonniers palestiniens. Reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de cette édition. À la une également, le Mexique, le Canada et la Chine dans l'attente des droits de douane annoncés par Donald Trump. Le président américain doit signer dans les prochaines heures des décrets qui pourraient chambouler l'équilibre économique du continent américain. En Birmanie, la révolte devenue guerre civile. L'état d'urgence est prolongé pour 6 mois par la junte militaire. Le pays est entré aujourd'hui dans sa 5e année de guerre. Et puis, dans 10 minutes, ce sera l'heure du journal des sports. Nous parlerons football, Ligue 1 et Première Ligue, mais aussi de MMA. La fin de 484 jours de captivité pour 3 otages israéliens. Ils ont été libérés ce matin lors d'une nouvelle mise en scène menée par des combattants cagoulés et armés du Hamas. Un échange contre plus de 180 prisonniers détenus par Israël. C'est dans une atmosphère lourde que des centaines de personnes ont suivi à Tel Aviv en Israël les libérations sur un écran géant. Les noms des 3 otages, Ofer Calderon, Yarden Bibas et Kiss Seigal, ont été scandés sur la place des otages. Le reportage de Muriel Paradon avec Nicolas Benita.
Sur l'écran géant de la place des otages à Tel Aviv, les premières images d'Ofer Calderon, entouré par des combattants du Hamas, le visage fermé, mais apparemment en bonne santé. Une heure plus tard, il est libre, de retour sur le sol israélien. Le poing levé, il affiche un large sourire. Cri de joie sur la place des otages, Michael est au milieu de la foule.
Je voulais partager l'émotion intense que tous ces gens autour de nous ressentent avec la libération de Calderon. Je pense que cette horreur ne mérite pas les klaxons, les cris de joie, etc. qu'on voit, parce qu'on a trop tendance à oublier l'horreur qui est derrière tout ça. Mais c'est vrai qu'en contraste, la libération d'un otage, de plusieurs otages, rend tout le monde heureux.
Ofer Calderon et un autre otage, Kiss Seigal, retrouvent leurs proches qui ont été enlevés en même temps qu'eux, puis libérés lors d'une première trêve. Ce n'est pas le cas de Yarden Bibas qui sort de Gaza sans sa femme et ses 2 enfants. Son histoire bouleverse tout le monde, comme Galit.
Pour lui, c'est terrible de sortir, de revenir à la vie, mais d'être amputé, de ne pas savoir où est sa femme, où sont ses enfants et quel est leur avenir. Est-ce qu'ils sont en vie ? C'est terrible, c'est une demi-vie.
Les enfants Bibas et leur mère ont été donnés pour morts par le Hamas, tués par un bombardement de l'armée israélienne. Israël n'a jamais confirmé et beaucoup ici veulent croire qu'ils reviendront un jour. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Et alors que la trêve dure dans la bande de Gaza, les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Jordanie, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et du Qatar étaient réunis aujourd'hui au Caire. Ils sont revenus notamment sur la proposition de Donald Trump de transférer les Palestiniens de la bande de Gaza vers les pays voisins, proposition balayée. Mais dans une déclaration commune, les ministres arabes ont tendu la main cette fois au président américain pour trouver une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Le monde compte sur Donald Trump pour parvenir à un accord de paix permanent, a même déclaré Abdel Fattah al-Sissi, le président égyptien. Aux États-Unis, depuis la Maison-Blanche, Donald Trump est lui en passe de signer des décrets actant de nouveaux droits de douane. Première victime, le Canada et le Mexique, dont les marchandises pourraient être imposées à hauteur de 25%. Une arme diplomatique et économique que le président américain avait déjà utilisée lors de son premier mandat. C'est la Chine qui avait alors fait les frais du tour de vis du président républicain. Mais depuis, la donne a changé, comme nous l'explique l'économiste Julien Marsili.
On se rappelle bien qu'à l'époque, Donald Trump ciblait beaucoup plus la Chine que les autres. Et si on s'en tient à sa doctrine, en fait, de son point de vue, il a remarqué que le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine s'était en partie résorbé depuis cette époque-là. Mais ce qui le gêne plus aujourd'hui, c'est de voir que dans le même temps, le déficit commercial américain vis-à-vis d'autres pays, et en particulier le Mexique, le Canada aussi, et puis d'autres pays, a augmenté. Donc, dit autrement, il a remarqué que, il y avait des exportations qui auparavant allaient directement de Chine vers les États-Unis, qui désormais passaient par des pays tiers, des pays tampons, comme le Mexique. D'où sa volonté, cette fois, de dire « je vais non plus cibler uniquement la Chine, mais tous les pays, en tout cas tous mes principaux partenaires commerciaux, de manière à faire passer le message suivant. La dernière fois, je vous ai empêché de rentrer par la porte, mais vous êtes passé par la fenêtre. Cette fois-ci, je ferme tous les côtés. »
Donald Trump qui a également pris à pleine main le dossier de l'immigration depuis son investiture. Et l'on apprend aujourd'hui que la Colombie propose de rapatrier à ses frais ses citoyens expulsés des États-Unis. Bogota s'attend au retour de quelques 27 000 migrants dont les ordres d'expulsion ont été signés ces 10 derniers mois par l'administration Trump ou celle de son prédécesseur. Donald Trump qui se félicite par ailleurs sur son réseau social que le Venezuela reprenne dorénavant ses ressortissants expulsés des États-Unis. La guerre en Ukraine et Moscou qui revendique de nouvelles avancées dans l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky regrette lui des frappes dans 6 régions de son pays. 11 personnes ont été tuées la nuit dernière. L'armée de l'air ukrainienne affirme que le Kremlin a lancé 42 missiles et 123 drones sur le pays, l'une des attaques les plus importantes depuis des semaines. La Birmanie en guerre pour une 5e année consécutive. En 2021, la junte militaire réprimait sévèrement les manifestations appelant au renversement de la dictature et à la libération d'Aung San Suu Kyi. 20 000 personnes avaient alors été arrêtées et des milliers d'autres tuées selon l'ONU. Depuis, la révolte s'est transformée en guerre civile entre l'armée et la rébellion pro-démocratie. Et Nicolas Roca, malgré le soutien important de la Chine, l'armée qui tient encore le centre du pays ne cesse de reculer.
Les grands centres urbains et quelques poches rurales dans les régions frontalières. Voilà à quoi ressemblent les territoires maîtrisés par l'armée birmane. Une large part du pays reste instable et en proie à d'intenses combats. Cet été, les rebelles ont conquis Lashio, une ville stratégique proche de la frontière avec la Chine. Elle abrite un des 14 commandements militaires régionaux du pays, le premier à tomber aux mains des rebelles. En tout, 95 villes seraient désormais sous contrôle de la résistance, selon le Myanmar Peace Monitor, et ce malgré des bombardements intense de l'armée, notamment sur des civils. À l'ouverture de la 5e année de guerre, la junte n'a jamais semblé aussi faible. Elle a prolongé ce vendredi l'état d'urgence, repoussant de nouveau les élections. Les dernières remontent au scrutin législatif largement remporté par le parti d'Aung San Suu Kyi en 2020, quelques mois avant le coup d'état. Le rôle joué par la Chine sera décisif dans les prochains mois. Pékin soutient la junte à qui elle continue de livrer des armes et parraine des négociations motivées par ses intérêts économiques et son désir de stabilité à sa frontière.
Nicolas Roca. En France, près de 1500 manifestants ont défilé ce samedi à Paris. Ils dénonçaient le manque de soutien international face au conflit dans l'est de la RDC, opposant l'armée et ses alliés au M23 soutenu par le Rwanda. Toujours dans la capitale française, ce rassemblement aussi, mais cette fois en soutien à 3 Français détenus en Iran. Cécile Collère et Jacques Paris, 2 enseignants arrêtés en 2022 lors d'un voyage touristique et accusés d'espionnage. Olivier Grondeau est lui aussi otage de Téhéran depuis plus de 2 ans. C'est pour ne pas oublier leur nom que 200 personnes se sont mobilisées aujourd'hui à Paris. Parmi elles, Daria, membre de l'association Neda d'Iran qui lutte pour les droits humains, pour les civils et les ressortissants iraniens.
C'est un moment qui est teinté d'un sentiment étrange parce que bien sûr, pour moi en tant que franco-iranienne, je me sens aussi attachée au sort des otages français qu'au sort des prisonniers politiques iraniens. Pour moi c'est une même cause, c'est la question de dire en fait, il y a aujourd'hui en Iran une application du droit qui est un faux droit et la République islamique se permet des traitements inhumains et des exactions à l'encontre de défenseurs des droits humains ou de civils qui n'ont rien fait, qui n'ont pas eu de procès équitable, qui sont détenus dans des conditions, par exemple on sait que c'est Cécile Collère a été mis en solitaire. C'est ce que Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix, qualifie de torture blanche. Donc en fait, c'est extrêmement inquiétant de se dire qu'elle est isolée, le coup psychologique que ça peut avoir sur elle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui est fait pour reconnaître la torture blanche comme effectivement comme une torture à part entière. Et il va falloir continuer pour œuvrer pour leur libération, continuer pour œuvrer aussi à la visibilisation de ce qui se passe dans les prisons iraniennes de toute manière, que ce soit pour eux ou pour les civils iraniens, et plus largement, en fait, se battre contre l'usage des peines punitives à l'encontre de civils, que ce soit en Iran ou que ce soit partout dans le monde.
Un témoignage recueilli cet après-midi par Élisée Félier.
Simon Bourtembourg.
RFI Soir, nous sommes encore ensemble jusqu'à 18h30 temps universel avant la première édition d'Afrique Soir. Et au programme, l'actualité des médias avec Amaury de Rochegonde. Il sera question du dernier scandale en date dans les médias japonais. À suivre également le portrait de Marina Zolotova, l'ancienne rédactrice en chef du média Tutbai, fait partie des 40 journalistes jetés derrière les barreaux par Alexander Loukachenko, le président biélorusse réélu dimanche dernier, qui ne cesse de faire pression sur les médias indépendants, nous le verrons. Et puis, nous serons aussi au Sénégal, à Dakar, où pour les Sénégalais et les Fripes, c'est une histoire d'amour, reportage à suivre. Mais avant ça, les sports. Journal des sports avec vous, Sofiane Amazian, bonsoir.
Bonsoir Simon, bonsoir à tous.
Et du football pour débuter, le Paris Saint-Germain conclut sa belle semaine avec une victoire en Ligue 1 sur la pelouse de Brest.
Et ce fut un poil compliqué, Simon, un poil compliqué au stade Francis Leblé. Victoire tout de même des Parisiens, 5 buts à 2. Le français Ousmane Dembélé y est allé de son triplé. Le portugais Gonçalo Ramos, lui, de son doublé. Avec cette nouvelle victoire en championnat, les Parisiens sont évidemment leaders avec 50 points, soit 13 de plus que l'Olympique de Marseille. En ce moment, l'AS Monaco au troisième accueil l'équipe d'Auxerre au stade Louis II, 9 minutes de jeu toujours 0-0, et ce soir le LOSC, Lille, qui s'est brillamment qualifié cette semaine pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, le LOSC qui reçoit l'AS Saint-Etienne à la lutte pour le maintien, coup d'envoi 20h05, temps universel.
Football encore, Sofiane, cette fois en Angleterre, Liverpool conforte sa place de leader en première ligue après sa victoire étriquée sur la pelouse de Bournemouth.
Les Reds, plus que jamais en tête du classement, nouvelle victoire cette fois face à Bournemouth, Simon, sur le score de 2-0, doublé de l'inévitable Mo Salah, le 20e et 21e but de l'Égyptien cette saison en championnat. Liverpool qui prend provisoirement 9 points d'avance sur Arsenal 2e et sur Nottingham Forest 3e, auteur du carton du week-end, victoire 7-0 contre Brighton. Et à noter le triplé du Britannique Chris Wood. On termine ce tour d'Europe du ballon rond par l'Allemagne où l'on joue la 20e journée de Bundesliga. Le Bayern Munich leader s'est imposé 4-3 face à Kiel. Dortmund de son côté se relance, victoire à l'extérieur 2-1 sur la pelouse d'Heidenheim grâce à un but notamment de l'international guinéen Serou Guirassy.
L'actualité sportive ce soir, c'est aussi les arts martiaux mixtes, le MMA. La légende nigériane Israël Adesanya affronte un combattant français, Nassourdine Imavov.
Ouais, c'est l'affiche du combat principal de l'UFC en Arabie Saoudite ce soir, un affrontement 5 étoiles pour passer un cap et devenir un candidat au titre de la plus grande organisation mondiale de MMA. En face, c'est une légende de l'organisation, Adesanya, ancien champion chez les moins de 84 kilos. Mais dernièrement, les combattants tricolores n'ont pas brillé face aux légendes de l'organisation. On se rappelle de Cyril Gall et ses défaites face à Francis Ngannou et John Jones, un complexe d'infériorité des combattants français. On écoute la réponse de Nassourdine Imavov.
Si on prend Cyril Gann contre Francis, ça s'est joué vraiment à pas grand chose, ça peut aller deux sens. Ça prouve déjà qu'il y a le niveau pour la ceinture, puis là il a gagné la ceinture intérimaire. Et pour ce qui concerne Benoît, c'est des choses qui arrivent, peu importe qui t'en face, qui cogne, c'est des petits gants et il suffit de une seconde d'inattention, tu prends un mauvais coup et c'est fini. Donc non, je pense que mentalement on est là, on est prêt, on sait ce qu'on vaut. Et puis vous le voyez, chaque UFC, hein, les combattants français sont là.
Et le combat de Nassourdine Imavov face à Israël Adesanya à suivre dans un tout petit peu plus d'une heure. Et pour finir, du rugby, la suite du tournoi Destination. L'Écosse a battu l'Italie 31-19 avec le bonus offensif ce samedi à Édimbourg en inscrivant 5 essais dont 3 par le seul Hugh Jones. Et en ce moment, Simon, l'Irlande face à l'Angleterre, l'Irlande qui mène 13-10 face aux Anglais.
Un journal des sports signé Sofiane Amazian. Merci à vous. Nous nous intéressons ce soir à la condition des femmes dans les médias au Japon. La télévision nippone est en ce moment secouée par un scandale sexuel. Amaury de Rochegonde, l'affaire a éclaté suite à des révélations d'une agression sexuelle commise par un animateur star de la grande chaîne Fuji TV.
Oui, Fuji TV, vous savez, c'est cette grande chaîne privée japonaise qui a longtemps été le plus profitable des réseaux hertziens dans ce pays, un peu comme M6 en France. Or voilà qu'une affaire d'agression sexuelle vise son présentateur vedette, Masahiro Nakai, âgé de 52 ans, qui est accusé d'avoir imposé une relation sexuelle non consentie à une femme en 2023. L'affaire a été sortie fin décembre par un influent tabloïd qui a précisé que cet animateur, une ancienne star d'un boys band très populaire dans les années 90, avait acheté le silence de sa victime. Il s'agit donc d'une agression sexuelle suivie d'une volonté d'étouffer l'affaire Est-ce que cela s'est fait avec la complicité ou la cécité volontaire de la direction? C'est toute la question. Fuji TV reconnaît avoir eu connaissance de l'affaire avant qu'elle ne soit rendue publique, mais réfute qu'un de ses employés ait organisé la soirée au cours de laquelle la star a rencontré la jeune femme.
Et cette affaire a éclaté à Maury après de multiples pressions.
Oui, l'animateur a été retiré de l'antenne, le patron de Fuji TV et le président de sa maison mère ont démissionné lundi, mais il a fallu pour cela qu'un fonds américain au capital de la chaîne, Dalton Investment, s'émeuve de la situation, que 70 annonceurs, dont Toyota ou McDonald's, retirent leur publicité, et enfin que le cours de bourse et l'audience reculent fortement. Il n'y a pas eu au Japon de vague MeToo et on a pu le vérifier dès le début de l'affaire, qui a été qualifié de problème ou d'inconduite sexuelle par les médias japonais. Shiro Ito, une journaliste qui a accusé un présentateur télé de l'avoir violé en 2019, a sorti un documentaire nommé aux prochains Oscars sur son combat et elle a confirmé à l'AFP la réticence des médias japonais à couvrir des accusations qui mettent en cause des personnes puissantes.
Et ce problème a-t-il des précédents dans le monde ?
Bien sûr, on se souvient en 2013 de l'affaire Jimmy Savile, cet ancien animateur de la BBC qui avait été reconnu après sa mort coupable de centaines d'agressions sexuelles. Une affaire qui ressemble beaucoup à celle de Johnny Kitagawa, le fondateur d'un boys band japonais qui, à sa mort en 2019, avait violé plusieurs centaines de jeunes garçons. À la BBC, cela avait aussi conduit des dirigeants à démissionner. Citons en France l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, le présentateur du 20h de TF1 jusqu'en 2008. Il a été mis en examen en 2023 et de nombreuses femmes l'ont accusé de viol ou d'agression sexuelle dans le cadre de son travail. Mais aucun dirigeant en place à l'époque n'a été inquiété.
Amaury de Rochegonde, merci à vous. L'actualité des médias encore, et nous prenons cette fois la direction de la Biélorussie. Le voisin de Moscou, où Alexandre Loukachenko a été réélu dimanche dernier pour un 7e mandat présidentiel. Un scrutin qualifié de mascarade par l'Union européenne. Il faut dire que la pression exercée par le dirigeant biélorusse est grande, et ce notamment depuis 2020 et les fortes mobilisations contre les fraudes électorales. Tous les médias indépendants du pays ont été fermés et plus de 40 journalistes sont derrière les barreaux. Parmi eux, Marina Zolotova, ancienne rédactrice en chef du média Tout-Bail. Elle purge une peine de 12 ans de prison. Anastasia Becchio.
Avec à sa tête Marina Zolotova, Tout-Bail était le plus grand média en ligne indépendant du pays. Estampillée extrémiste, elle a été fermée en août 2021. Alexandra Pouchkina y a travaillé. Elle est aujourd'hui membre du comité de direction du journal en ligne Zerkalo, successeur de Tout-Bail, dont les journalistes sont disséminés dans plusieurs pays européens. Beaucoup de personnes avaient Tout-Bail en page d'accueil. Elles débutaient leur journée en lisant notre site, elles puisaient toutes les informations sur Tout-Bail et vérifiaient l'information grâce à Tout-Bail. On estimait que tant que ça n'avait pas été publié sur le site, l'information n'existait pas. Tout-Bail, c'était cette force qui permettait notamment de régler des problèmes dans le pays.
Marina Zolotova, 47 ans, purge sa lourde peine dans la colonie pour femmes de Gomel. Ses collègues ont de ses nouvelles grâce aux lettres qu'elle peut échanger avec sa famille, son mari, ses deux enfants exilés à Varsovie. Voici ce qu'elle disait de son métier à la Deutsche Welle avant son arrestation.
Nous avons fait notre choix lorsque nous avons décidé de faire du journalisme dans ce pays et de le faire comme nous le faisons, c'est-à-dire en rapportant honnêtement ce qui se passe dans le pays.
Marina Zolotova a été condamnée, tout comme la directrice de Tout-Bail, Ludmila Tchekina, pour incitation à la haine, appel à des actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale, mais aussi évasion fiscale, des charges qualifiées d'absurdes par Reporters sans frontières. Olga Loïko était responsable éditoriale de la section politique et économique de Tout-Bail, placée sur la liste des personnes impliquées dans des activités terroristes. Après avoir passé 10 mois en détention provisoire, elle a ensuite fui le pays. Elle sera jugée par contumace pour les mêmes charges que son ancienne rédactrice en chef.
On savait qu'on était susceptible de se retrouver en prison, mais personne ne pensait qu'il y aurait des peines aussi lourdes. Dans la rédaction, c'était un sujet de plaisanterie, une sorte de psychothérapie sur le ton de l'ironie. On blaguait par exemple avec des interrogations du type « Mais qui va rester avec ton chat ?» On en discutait assez souvent parce qu'il y avait des arrestations. Mais d'un autre côté, Tutbai était quand même un média important, influent, où on s'efforçait de respecter les bonnes pratiques du journalisme. Donc on ne s'attendait pas à de telles condamnations. Et d'ailleurs, personne probablement ne s'y attendait.
S'il a gracié quelques prisonniers politiques l'an dernier, Alexandre Loukachenko a signifié lors d'une récente conférence de presse qu'il n'avait aucunement l'intention d'en faire de même pour les journalistes emprisonnés. Face aux arrestations arbitraires, aux perquisitions, aux fermetures de médias et aux violences exercées contre les journalistes, Reporters sans frontières a déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité.
Anastasia Becchio et menace pour l'information à réécouter quand vous le voulez sur notre application RFI Pure Radio.
Baqué 94.4 FM.
RFI, 18h20 à Dakar, le Sénégal, où en fin d'année dernière, le ministre du Commerce a provoqué un tollé en annonçant l'interdiction de l'importation de vêtements usagés. Il a finalement démenti quelques jours plus tard, expliquant qu'il s'agissait plutôt d'une perspective sur le long terme visant à soutenir le textile local. Il faut dire que les Sénégalais et la fripe, c'est une histoire d'amour qui dure. Alors au marché Koloban à Dakar, le plus grand marché de vêtements de seconde main de la capitale sénégalaise, la perspective laisse perplexe. Le reportage de Juliette Dubois.
Magat Sania fouille un stand de haut à 300 francs CFA. Cette commerçante élégante, experte de la friperie, sait qu'elle trouvera son bonheur.
Tout ce que je porte, c'est de la friperie. Les boutiques, ils sont chers, alors qu'ici, c'est moins cher. En plus, tu peux trouver ce que tu veux. Parfois, tu trouves de la qualité. Parfois, des trucs neufs.
Pour les Sénégalais, les fripes sont synonymes de vêtements durables et de qualité. Chaque jour, des centaines de grosses balles de vêtements sont éventrées et les Dakarois viennent piocher dans les tas. Les fripes génèrent aussi beaucoup d'emplois. Les vendeurs sur le marché, plusieurs centaines, mais aussi les revendeurs au détail. Ibnou vient ici 4 fois par semaine.
Vous cherchez quoi aujourd'hui ?
Bon, aujourd'hui, je cherche des trucs pour le froid, parce que c'est la période, quoi. J'achète pour revendre. Je cherche les marques et puis les habits non abîmés aussi.
L'après-midi, il se rend dans un autre quartier pour vendre dans les rues. Une pièce à 500 francs CFA pourra partir pour 1000 ou 1500 francs CFA. Le business de revente se fait aussi sur les réseaux sociaux. Mohamed Mansour Mbaye cartonne sur TikTok où il revend fripes et vêtements de fin de série qui repartent parfois d'où ils sont venus.
Bon, mes articles, ils sont très bien achetés. Surtout, c'est ceux qui sont en Europe qui m'achètent mes articles le plus.
L'évocation d'une interdiction de l'import de vêtements de seconde main a fait bondir Bassirou Khan, qui vend des vêtements pour hommes au marché depuis 2006.
Je suis inquiet, nous n'avons que cette activité, la vente de friperies, qui est notre gagne-pain. Je connais même des personnes qui ont abandonné leur ancien commerce pour s'y consacrer entièrement.
Eli, chauffeur de VTC à la chemise et aux chaussures de marque trouvées dans les friperies, ne croit pas que miser sur la confection locale soit soutenable.
On peut s'habiller en made in Sénégal pour les habits traditionnels. Tout simplement. Mais pour les habits qu'on porte d'habitude, on préfère la friperie. Des chemises, des jeans, j'ai jamais vu made in Sénégal.
La plupart des usines de textile du pays ont fermé boutique dans les années 90. Ibnou, lui, n'est pas contre cette idée de préférence nationale prônée par les nouvelles autorités.
Si on ouvrait des usines pour faire des vêtements, moi je préfère ça que d'acheter des vêtements de seconde main. Tout ce qui nous rend indépendants est bien pour nous. Même si au début c'est difficile, mais à la fin, après, on va en profiter.
Deux usines de textile à Kaolack et Louga ont rouvert leurs portes ces dernières années. Pas encore suffisant pour habiller près de 18 millions de Sénégalais. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
RFI, 18h23 en temps universel. Vous avez donc rendez-vous avec l'actualité africaine dans maintenant 7 minutes. Mais avant ça, le livre inter de la semaine qui nous emmène au Mexique. Frédéric Saliba, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos, est l'invité de RFI Soir. Journaliste notamment pour le quotidien Le Monde, Frédéric Saliba a travaillé 16 ans à Mexico. Auteur de milliers d'articles de presse, il a notamment couvert tous les sujets ayant trait au narcotrafic. Une histoire dont il a donc écrit un livre et qu'il raconte pour nous à Christophe Paget.
Frédéric Saliba, bonjour.
Bonjour.
Peu de temps après votre arrivée au Mexique en 2006, Felipe Calderón, lui, arrive au pouvoir. Il déclare une guerre au narcotrafic. C'est une spirale de violence ahurissante que vous décrivez.
Felipe Calderón est mal élu, en fait. Il a une marge de 0,5% seulement des voix. Et donc, il manque de légitimité. Il s'appuie sur les militaires, l'armée étant l'institution la plus respectée par les Mexicains, pour déclarer la guerre contre un vieux fléau mexicain qui est le narcotrafic. En déployant une force frontale contre le crime organisé, les narcotrafiquants qui étaient déjà en guerre entre eux déclarent la guerre aussi au gouvernement. Ils s'arment d'armes lourdes, de lance-roquettes, de drôles bombardiers. Donc ce pays merveilleux commence à avoir des luttes armées dignes parfois de scènes de guerre.
Et en fait, vous décrivez une contagion de la violence à toute la société.
C'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet cafard, qui est une expression d'expert en sécurité publique mexicain. Quand vous traitez une maison, si vous ne traitez pas les maisons voisines, la secte se déplace. Quand je suis arrivé, il y avait 5-6 États concernés par ces violences. Aujourd'hui, on parle de 27 États, voire 28 sur 32. La violence s'est disséminée, ce qui a créé donc sur le plan de la violence une véritable hécatombe, et sur le plan des drogues, un développement notamment des drogues de synthèse et du nombre d'overdoses liées à ces drogues.
Et de fait, paradoxalement, cette guerre contre les narcotrafiquants a causé une augmentation du nombre de cartels.
Felipe Calderón s'est focalisé sur l'arrestation de grands barons de la drogue, ayant une forme de retentissement médiatique et politique. Le seul problème, quand vous décapitez d'une certaine manière un cartel de la drogue, vous créez des guerres intestines, et donc les cartels ont tendance à se fragmenter en gangs plus petits, mais aussi plus violents, dans l'espoir de pouvoir s'imposer face à leurs concurrents.
Ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y a eu une alternance politique au Mexique en 2000, et ça crée un déséquilibre dans le pays par rapport au trafic de drogue.
Dans les années 2000, c'est l'achèvement d'un processus démocratique. Le Mexique a été contrôlé par un parti hégémonique, on parlait de dictature parfaite. Donc la démocratie arrive, le pluralisme politique arrive. Et en fait, cet avènement de la démocratie a un effet pervers, c'est qu'elle fragilise l'État central en mettant des nouveaux acteurs à la tête de l'État, alors que le politique contrôlait d'une certaine manière le narcotrafic pendant ces années de dictature parfaite. Il y a un phénomène inverse qui se crée, en tout cas localement, le narcotrafic commence à contrôler dans les régions de production et de transport la sphère politique, nommant ces hommes à la tête des mairies notamment, et terrorisant la population locale pour maintenir une certaine omerta.
Vous racontez aussi les coulisses de votre travail de journaliste. Comment est-ce qu'on travaille sur le narcotrafic au Mexique?
Nous parlons de conflits de basse intensité. Vous ne savez pas d'où les coups partent. Il existe au Mexique quand même des narco-avocats, des narco-juges, des narco-policiers, et figurez-vous qu'il existe aussi des narco-journalistes. Et donc, nous évoluons dans une atmosphère assez trouble, où il faut énormément enquêter, notamment sur ses propres sources, pour pouvoir travailler dans des conditions sereines, non seulement pour ma sécurité, mais plutôt pour la sécurité des gens qui m'informent, qui, eux, sont exposés directement sur le terrain. Moi, étant protégé, j'avais une certaine protection, en tout cas du moins symbolique, alors que mes confrères mexicains et mes sources sur le terrain sont directement exposés. Et d'ailleurs, j'ai certains confrères qui ont perdu la vie.
Quels sont les rapports du Mexique et des Mexicains avec les États-Unis? Parce que ce que vous racontez, c'est que la DEA, la célèbre agence antidrogue américaine, arrêtait les trafiquants que le Mexique leur désignait et laissait ceux qu'ils protégeaient.
C'est un petit peu l'impression que j'ai, moi, après 18 ans tout de couverture de ce conflit. C'est qu'en effet, on est dans un jeu assez trouble où l'État lui-même, on peut se poser la question de savoir s'il souhaite éradiquer le narcotrafic ou tout simplement le contrôler. On le voyait d'ailleurs par rapport aux arrestations. Les membres du cartel de Sinaloa étaient rarement neutralisés. Souvent, il s'agissait de membres dissidents ou déjà sortis un petit peu de la sphère dirigeante du cartel. Et donc, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait des complicités à l'intérieur de l'État mexicain. Et c'est d'ailleurs le gros sujet, je pense, aujourd'hui au Mexique. Le ver est dans la pomme administrative de ce pays. Comment arriveront-ils à faire une opération main tremble comme on l'a pu voir en Italie, par exemple?
Frédéric Saliba, merci.
À Frédéric Saliba, auteur de Cartel, voyage au pays des narcos. C'est la fin de cette demi-heure consacrée à l'actualité internationale. Olivier Roux était à la réalisation, Alexandra Cagnard à la rédaction en chef. Restez bien à l'écoute de RFI dans un peu plus d'une minute. Maintenant, l'actualité africaine et la première édition d'Afrique Soir.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
L'Allemagne, première économie de la zone euro, est plongée dans une crise profonde.
confrontés à une panne de croissance, à une activité au ralenti, les patrons sont en colère à quelques semaines d'élections indécises. Nous analyserons les raisons de ce marasme et les conséquences pour l'ensemble du continent.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Ce dimanche sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Le printemps des peuples de 1848, Christopher Clark, historien à Cambridge, vient de lui consacrer un livre de référence.
En fait, c'est la seule révolution véritablement européenne qui ait jamais existé. Il n'y a jamais eu une cascade continentale comme ça. C'est la seule fois que ça s'est passé.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.